Bonsoir chers amis, cet enseignement porte sur le pardon dans le cadre du parcours Miséricorde le 19 mars 2021. De l'épître aux Corinthiens, supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous mutuellement si vous avez des reproches à vous faire. Le Seigneur vous a pardonné, faites de même. Par-dessus tout cela, ayez l'amour qui est le lien le plus parfait. Et que dans vos cœurs règne la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés, vous qui formez un seul corps. Qu'il est difficile de pardonner. C'est sans doute la chose la plus difficile dans notre foi de chrétien. Tous nous accumulons des dettes les uns envers les autres, paroles, silences, gestes, absence de gestes, ingratitude. Pardonner est ce qu'il y a de plus difficile et en même temps le lieu d'un témoignage magnifique. Les témoignages sur le pardon sont nombreux, parfois héroïques. Je vous en cite quelques-uns. À la question « Peut-on pardonner à ses bourreaux ?», le cardinal Michel Colocchi d'Albanie, après plus de 40 années passées en goulag, répond au journaliste « Je vous le dis franchement, je n'éprouve aucun de ces sentiments de ressentiment. Je prie au contraire Dieu pour qu'il leur pardonne. » Ou bien encore, le père Tertullien Langa de Roumanie répond à cette même question « Bien sûr qu'on peut pardonner, dit-il. Et non seulement je leur pardonne tout, mais je crois que tous mes tortionnaires ont été des instruments du bien et que par leur intermédiaire, Dieu a travaillé et bonifié ma vie. » Dietrich Bonhoeffer, pasteur protestant, avant son exécution dans un camp nazi. Qui peut avoir plus besoin d'amour que celui qui vit dans la haine? Je pense aussi au pasteur Son Yang-won en Corée, déclarant aux juges qui viennent de condamner à mort le jeune communiste qui a assassiné son fils, qu'il désire l'adopter. Ce faisant, il lui sauve la vie. Il l'accueillera dans sa famille et lui fera découvrir le Christ. Tous deux mourront martyrs quelques années plus tard. Ces témoignages nous semblent parfois tellement héroïques qu'on peut se demander, mais et moi, est-ce que j'arriverai à pardonner à ceux qui me font du mal, parfois des pardons qui semblent plus faciles à donner et que je n'arrive pas à donner? Alors j'aimerais avec vous ce soir creuser cette question du pardon. D'abord, je vais faire un constat. La vie avec d'autres personnes humaines est inévitablement source de conflits. Trois raisons à cela. Chers paroissiens, vous n'êtes pas moi et je ne suis pas vous. Nous sommes autres, nous sommes différents. Le rapport à l'altérité fait que nous ne sommes pas les mêmes. Et donc, nous avons des avis différents et parfois tout cela s'entrechoque. J'aime utiliser l'expression, ou plutôt le mot de logiciel. Nous n'avons pas les mêmes logiciels. Ils sont liés à nos personnalités, notre nature humaine, mais aussi nos histoires nos rencontres. Deuxième raison pour lesquelles, la vie avec d'autres est forcément source de conflits. À cause du péché originel, notre nature est blessée. Et puisque nous sommes blessés, nous sommes blessants. C'est fou ce que dans les discussions les uns avec les autres, en famille, entre amis, en paroisse, nous pouvons réussir ou arriver plutôt à être blessants sans le vouloir. Il m'a regardé comme ceci, ou plutôt il ne m'a pas regardé, ne m'a pas souri. Il a dit cela, elle a dit cela. Rien de blessant objectivement, mais l'autre l'a mal pris. Nous avons ce trésor, nous dit saint Paul dans la deuxième épître aux Corinthiens. Nous avons ce trésor dans des vases d'argile. Ce trésor, c'est la présence du Seigneur. Les vases d'argile, c'est nous. Nous sommes si fragiles, vous et moi. Troisième raison, notre péché, c'est-à-dire ces actes volontaires que nous prononçons, que nous vivons pour blesser les autres. Alors, tout cela fait que oui, les conflits peuvent être nombreux. Le pardon est-il nécessaire? Peut-on vivre sans pardonner? Je vais vous donner dans un deuxième temps six bonnes raisons de pardonner. Le pardon, tout d'abord, est un commandement de la charité. Les librairies regorgent de livres recommandant la pratique du pardon pour aller mieux, prendre soin de soi, pour se sentir bien. C'est vrai. Pardon et libération sont le même mot en grec, mais le pardon chrétien ne se situe pas d'abord sur ce plan-là. Ce n'est pas au nom de notre bien-être que le Christ nous invite à pardonner, c'est un commandement de la charité. Et tous ceux qui ont pardonné dans des épisodes profondément douloureux de leur vie, comme je le citais il y a 3 minutes, ils l'ont fait d'abord par amour pour le Christ. Et tant mieux si les retombées psychologiques sont heureuses. Deuxième raison de pardonner. Refuser de pardonner, c'est potentiellement risquer d'en devenir malade, soit physiquement, soit psychologiquement. Le pasteur Richard Borgman n'avait pas pardonné à sa maman. Il était du coup très dur avec sa femme. Il va être guéri un jour en entendant la voix de la Vierge Marie. « Pourquoi me détestes-tu ? » Il se rend compte alors que parce qu'il entretenait une rancœur vis-à-vis de sa mère, il n'arrivait pas à aimer sa femme. Le bon Dieu lui donne une grâce de guérison. Il se met alors à pardonner à sa mère. Sa relation à sa femme, raconte-t-il, va en être transformée. Lui-même deviendra catholique. Troisième bonne raison pour pardonner. Refuser de pardonner peut aussi nous rendre malades au niveau de l'intelligence. On raconte que Nietzsche est devenu fou, sans doute parce qu'il n'arrivait pas à pardonner à Dieu pour la souffrance qui demeure dans ce monde ou pour ce qu'il ne comprenait pas, lui Nietzsche, de ce monde. Ne pas pardonner, c'est se risquer au syndrome du compotier. Vous mettez des fruits et si vous laissez un fruit pourrir, tout le reste va pourrir. S'il y a quelque chose qui demeure, cela se développe. Je vais davantage râler, je vais être plus triste, je ne vais pas trouver ma place. C'est en train de pourrir toute ma vie. Quatrième bonne raison de pardonner. Parce que nous avons été créés à l'image de Dieu qui est un être de relation. Pardonner, c'est pouvoir entrer à nouveau en relation avec Dieu, avec moi-même, avec les autres. Nous avons souvent du mal à découvrir qui est Dieu, car comme il est amour, les pardons que nous ne donnons pas ou que nous n'arrivons pas à donner nous empêchent souvent de découvrir profondément qui il est. Vous voulez connaître Dieu, vous voulez connaître le Christ, notamment en particulier en profondeur, alors pardonnez. Cinquième raison, pardonner, c'est ressusciter. Notre dignité, c'est être capable de donner une réponse bien plus forte que le péché. C'est la meilleure façon de détruire ce péché que de pardonner. Le Christ pouvait descendre de la croix, il a fait plus grand, il a pardonné. Il n'a pas seulement détruit ce péché, mais il l'a transformé en quelque chose de bien, puisque nous avons reçu le salut des mains du Seigneur. La seule façon de casser l'engrenage du péché, c'est le pardon. Bien sûr, cela semble impossible avec un regard humain. Mais c'est le lieu de la grâce, c'est l'œuvre de la grâce, j'y reviendrai. Le père Mathieu Daucher, dont j'ai lu tous les livres, prêtre à Manille, qui récupère beaucoup d'hommes et de femmes, beaucoup d'enfants dans la rue, raconte que souvent, quand il rencontre des enfants perdus dans la rue, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 8 ans, il leur propose de la nourriture ou bien de les loger, eh bien, ce n'est pas cela qui va les aider à sortir de la rue. Souvent, ils refusent. En revanche, s'ils les mettent, ces enfants, sur un chemin de pardon, il a remarqué qu'ils acceptaient de se faire aider. Le miracle du pardon. Sixième raison. Refuser de pardonner, c'est s'endurcir, se fermer, même si tout cela n'est pas parfaitement conscient. Pardonner, c'est devenir comme le Christ, doux et humble de cœur. Le pardon n'est pas l'arme des faibles, mais l'arme des forts, qui n'ont pas peur de se faire avoir, mais il est plus important d'entrer dans cette douceur pour se réconcilier avec Dieu, avec les autres, avec nous-mêmes. Le pardon, c'est refuser de laisser le mal continuer son œuvre en moi. C'est dire stop, c'est mettre une barrière, un mur. Refuser de pardonner, c'est laisser le mal m'atteindre, me ronger de l'intérieur, me détruire parfois, le laisser gagner et finalement laisser ce mal me rendre mauvais à mon tour. Les rancunes, chers amis, les colères, les désirs de vengeance sont la victoire du mal en nous. Ne pas pardonner, c'est marquer un but contre son camp. Pardonner, c'est retourner le mal que l'on m'a fait en bien pour celui qui m'a offensé. Avançons. Troisième chose, troisième partie. Qu'est-ce qui est donc difficile dans le pardon ? Premier élément, me semble-t-il, souvent nous n'arrivons pas à oublier parce que notre mémoire est trop blessée. Mais pardonner n'est pas oublier. Nous ne pourrons pas changer nos parents, nos collègues, ceux qui nous ont blessés ou bien les actes que nous avons posés. Il ne s'agit pas de nier qu'il y a eu un mal commis, de faire semblant, de devenir amnésique. Pour le comprendre, il nous faut contempler le Christ ressuscité. Il garde les stigmates de ses blessures. Mais ces dernières ont été transfigurées, traversées par l'amour. Il en sera de même pour nos propres blessures, pour nos propres pardons que nous avons accordés. C'est le miracle de l'amour. Dieu transforme notre péché en occasion pour nous manifester encore plus d'amour. C'est ce que nous pouvons faire avec notre prochain qui nous a blessés. Avec saint Thomas, Jésus montre ses plaies. Il lui dit « Mets ta main dans mon côté ». C'est une manière de lui dire « Thomas, je te montre toute ma miséricorde. Je te montre ce que votre blessure a généré chez moi un surcroît d'amour. » C'est ce que nous sommes invités à vivre, les uns avec les autres en tout cas, si nous voulons suivre le Christ jusqu'au bout. Bienheureuse blessure, qui par la grâce de Dieu nous pousse à un surcroît d'amour. Haïssez le péché pour mieux aimer le pécheur. Oui, pour pardonner, il faut avoir les pieds sur terre. Le père Daucher, à Manille, raconte « On ne dit pas à un enfant abusé, oublie, fais table rase. » Non, haïr. Il faut haïr l'abandon, les abus, les violences, la négligence, ce manque d'amour auquel ils avaient droit. Le commandement de l'amour du prochain est aussi un commandement de haine, car si vous aimez votre prochain, vous devez haïr tout le mal qui s'oppose à cet amour. Rien n'est pire que de dire « oublie, allez, c'est bon, tourne la page, c'est fini, n'y pense plus ». Pour aimer encore plus le pécheur, il s'agit de détester le mal, de le regarder en face. Ernest Hello avait les mots suivants. La miséricorde, quand donc la vengera-t-on du visage niais qu'on lui donne trop souvent? Quand comprendra-t-on qu'elle est inséparable d'une haine active, furieuse, dévorante, implacable, éternelle? La haine du mal, quand comprendra-t-on que pour être miséricordieux, il faut être inflexible, intraitable avec le mal? Frères et sœurs des fraternités, soyez intraitables avec le péché à commencer par le vôtre et aussi le péché des autres. Mais aimez le pécheur du fond du cœur, du plus profond de votre âme, car c'est la seule façon de ressusciter le pécheur et la victime. Non, on n'oublie pas ce qui a été fait. Si vous oubliez le péché, vous n'avez plus rien à pardonner et votre amour sera d'autant plus grand que vous savez ce qui vous a été fait, que vous le regardez en face. Pas de déni. Alors oui, la mémoire peut revenir parfois. Et cette mémoire peut être le lieu d'une tentation. Je cite le père Pierre Rino. Soutenu par la grâce, la volonté accorde son pardon. Mais la mémoire, il est vrai, parfois travaille d'une manière qui nous échappe et va resservir le plat. La mémoire est alors une forme de tentation et peut même être l'occasion d'une chute. Il s'agit de redonner sans cesse le pardon. Autre difficulté dans le pardon. Parfois, nous pensons que pardonner dépend de nos propres forces. Bien sûr, il est essentiel d'avoir le désir de pardonner. Le pardon est une décision humaine à poser, mais elle n'est rendue possible que par la grâce de Dieu. « Hors de moi, vous ne pouvez rien faire », disait le Christ. A fortiori, pardonner. Le pardon est donc d'abord une grâce à recevoir, à demander, un don qui dépasse la mesure de l'amour humain et qui va me permettre de pardonner vraiment. Martine, 59 ans. Voilà ce qu'elle raconte. Ma mère a saccagé mon enfance. Elle était violente avec moi. À 17 ans, je me suis révolté et retrouvé à la rue avec toutes ces perversions. Puis, j'ai réussi à rentrer dans la police, je voulais m'en sortir. J'ai voulu croire au bonheur. Je me suis alors marié, mais ma souffrance enfouie au fond de mes entrailles a pris le dessus et mon couple a explosé au bout de 16 ans. À nouveau à la rue, à 42 ans, j'ai voulu attenter à mes jours. Par hasard, je suis entré dans une église. Les paroles du prêtre m'ont percuté en plein cœur. Mes années de catéchuménat m'ont alors remise debout. Au cours d'une agapé-thérapie, on m'a exhorté à entreprendre une démarche de pardon envers ma mère. Je me suis rebellé tant cela me paraissait inimaginable. J'ai filé alors à la chapelle et j'ai entendu distinctement ces mots dans mon cœur. « Soit tu prends la route du pardon, car je te veux debout, dit le Seigneur. Soit tu la refuses et tu t'égareras dans les voies de la mort qui jalonnent ta vie depuis toujours. » Face à l'autel, j'ai hurlé. « Alors fais-le, toi, Seigneur, car moi j'en suis incapable. » Et là, il a mis en mon cœur une grâce de paix qui m'était inconnue. Je suis allé sur la tombe de celle qui avait été mon bourreau pour lui accorder mon pardon. En aurais-je été capable si je n'avais moi-même goûté à la miséricorde du Seigneur? Ce qui est sûr, c'est que ce pardon a été pour moi un réel chemin de vie. Autre chose. Le pardon ne signifie pas forcément réconciliation. Il n'est pas forcément possible ici-bas de renouer la relation, de prendre l'autre dans mes bras. Ce sera le lot du ciel. Ici-bas, pardonner, c'est désirer ou au moins désirer, comme le disait la petite Thérèse, remettre la dette, renoncer à son droit. Au fond, c'est se libérer et libérer l'autre. C'est permettre à l'autre de ne pas vivre sa vie sous le mode du remboursement permanent de la dette. Parfois, revoir celui qui m'a fait du mal est au-dessus de mes forces. Il faut alors distinguer le plan psychologique du plan spirituel. Jésus ne nous demande pas d'aller embrasser notre offenseur. Certains sont capables de le faire. C'est une grâce qui leur est donnée. Mais cela ne signifie pas que tout le monde en sera capable. Le test pour savoir si on a pardonné est sûrement de voir si l'on est capable de prier pour l'offenseur. Oui, le pardon est d'abord une grâce à recevoir. Avançons. Cela ne doit bien évidemment pas empêcher l'exercice d'une certaine justice. La justice s'intéresse à l'acte. Le pardon s'adresse, lui, à la personne. Écoutons Jean-Paul II. Le pardon s'oppose à la rancune et à la vengeance, et non à la justice. Le pardon ne s'oppose d'aucune manière à la justice. Il ne consiste pas à surseoir aux exigences légitimes de réparation de l'ordre lésé. La justice doit être complétée par le pardon qui guérit les blessures et qui rétablit en profondeur les rapports humains perturbés. Je donne ici l'exemple d'Alessandro Serenelli, l'assassin de Maria Goretti, cette jeune femme dont il a voulu abuser. Elle a refusé ses avances, il l'a tuée, elle avait je crois 12 ans. Voilà comment la justice s'est opérée chez cet homme. La future sainte ainsi que sa mère lui avaient toutes deux pardonné son crime pour lequel il a été condamné à une peine de 30 ans de prison. Au cours de son incarcération, le jeune homme se convertira. « J'ai accepté la sentence méritée, dira-t-il plus tard. J'ai expié ma faute avec résignation. Marie, la Vierge Marie, a été ma lumière, ma protectrice. Avec son aide, j'ai acquis un bon comportement et j'ai cherché à vivre de façon honnête lorsque la société m'a accepté à nouveau parmi ses membres. » Voilà cet homme qui a fait ses années de prison, qui s'est converti et qui a terminé, dans mon souvenir, eh bien comme jardinier d'une communauté de sœurs. Il a assumé la réparation de son péché de façon toute humaine. Parfois, nous continuons aussi à souffrir profondément. Justement, parce que je continue de souffrir, le pardon est magnifique, comme le Christ sur la croix. C'est le choix de la vie et celui d'un magnifique témoignage. Je raconte ici une histoire, un témoignage du père Mathieu Dauchet, donc aux Philippines. Je crois que c'est dans son livre « Le prodigieux mystère de la joie ». Jérémie, quand il avait 11 ans, vole 50 pesos dans le portefeuille. de ses parents. Sa maman, pour le punir, prend ses deux mains et les plonge dans l'eau bouillante. Dans un accès de folie, il s'enfuit, il se retrouve dans la rue, il hurle de douleur. Pas seulement à cause de la brûlure, mais surtout parce que celle qui devait le protéger l'a martyrisé. Il lui faudra deux opérations pour retrouver l'usage de ses mains. Jérémy est récupéré par l'association du père Daucher. Il fait tout un chemin. Il apprend à prier. Ses résultats scolaires progressent. Après quelques mois, il approche un des éducateurs. Il dit « J'aimerais revoir maman et lui pardonner ». Très méfiant, les membres de l'association reprennent contact avec la maman. Jérémy retrouve sa mère. Il lui donne son pardon. Celle-ci accepte alors de se faire suivre par un psychiatre. Quelques semaines plus tard, Jérémy demande le baptême. Quelques mois plus tard, la maman, bouleversée par la démarche de pardon de son fils, réclame le baptême pour elle et tous ses enfants. Voici, frères et sœurs, le miracle du pardon dans nos vies. Quatrième partie. Mais alors, comment pardonner? Tous dans notre vie, nous avons des pardons à donner. Et je crois honnêtement, comme prêtre depuis bientôt 12 ans, que je peux dire que tout le monde aura au moins un gros pardon à donner dans sa vie, qui peut être le lieu précisément de ressembler particulièrement au Christ. Comment pardonner? Quelques étapes d'abord avant le pardon. Pour pardonner, il s'agit d'accepter que nous sommes différents, que nos points de vue diffèrent, que nos éducations sont différentes, que nos caractères sont différents. Si nous ne l'acceptons pas, nous aurons du mal à pardonner. C'est aussi être capable de parler avec l'autre, avec celui qui m'a blessé. S'il n'y a pas de parole, s'il n'y a pas d'échange, comment le pardon pourra-t-il s'établir ? Il ne peut se vivre que dans une relation. Suis-je capable d'essayer de comprendre le mode d'emploi de l'autre, son fameux logiciel, ses joies, ses souffrances? Je vois la blessure qu'il m'a faite, mais suis-je capable d'entrer dans ce qu'il est? Il nous faut aussi, frères et sœurs, identifier le mal, c'est-à-dire reconnaître que nous avons été blessés à cet endroit-là, par cet acte-là, par cette personne-là. Pas de déni. Il nous faut reconnaître l'étendue du mal et ses conséquences dans notre vie d'aujourd'hui. Nous avons dit tout à l'heure que pardonner n'était pas nier ou relativiser l'offense. Il nous faut accepter ce que nous pouvons encore ressentir, la colère, la révolte, la culpabilité, mais aussi la tristesse, l'abandon. Cela implique une démarche de vérité. Ce n'est qu'après ce travail de lucidité que nous pourrons être en mesure de renoncer à nos désirs de réparation, de vengeance, à cette rancune que nous avons pu jusque-là nourrir, ou encore à une sournoise complaisance dans l'état de victime. Il s'agit également de purifier nos intentions. Comment distinguer un pseudo-pardon d'un pardon authentique ? Plusieurs critères de discernement sont possibles. Par exemple, il faut se poser les bonnes questions. Suis-je prêt à demander pardon le premier ? Est-ce que mon pardon a pour but de faire grandir l'autre, notamment dans l'estime de soi ? Suis-je d'accord pour lui pardonner avant même qu'il ne m'ait demandé pardon ? Suis-je capable de lui pardonner sans rien dire, si mon pardon risque de l'humilier ? Suis-je prêt à attendre le moment qu'il faudra, en sachant que ce temps deviendra peut-être jamais, pour manifester ce pardon ? Et puis, pendant le pardon, ce pardon doit être explicite. Des phrases comme « c'est pas grave » ou « oh t'inquiète, je passe l'éponge » ne sont pas de vrais pardons. Nous devons pouvoir dire « je te pardonne sur telle chose ». Le pardon n'est pas résoudre qui a raison ou qui a tort. Il s'agit donc d'éviter les « mais ». Ce n'est pas « je te pardonne, mais quand même ». C'est ouvrir l'avenir sans chercher à régler le passé. C'est se mettre à la place de l'autre. Tel comportement m'a blessé ou t'a blessé. Je te demande pardon ou j'accueille ton pardon. Ou bien j'ai besoin de te dire cela. Je n'ai pas fait attention à toi. Demander pardon, c'est poser un acte d'humilité, c'est reconnaître que l'on a offensé celui que l'on devait aimer. Et puis, il s'agit de surveiller les mots que l'on choisit. Je te pardonne, de toute façon, tu as toujours raison. C'est une façon de juger qui est rude, qui est dure, qui est comme une bombe à retardement. attention à la tentation de juger. Je peux dire mon sentiment, mais le cœur de l'autre, je ne le connais pas en tout cas parfaitement. Il s'agit de garder son calme. Attention aussi, frères et sœurs, à ne pas instrumentaliser le pardon. Le pardon peut être utilisé comme un moyen d'écraser l'autre, de le manipuler, d'en faire un double débiteur. Non seulement tu es coupable de m'avoir offensé, mais en plus tu me dois la reconnaissance, parce que dans ma grande bonté, je te pardonne. Ce pseudo-pardon, à l'opposé d'une attitude authentique, miséricordieuse, est complètement dénaturé, parce qu'il est dicté non par l'amour, mais par l'orgueil ou la méchanceté. Pardonner doit se faire aussi, chers amis, en parole et ou en acte. Demander pardon, accorder son pardon, cela va sans dire parfois, mais cela va tellement mieux en le disant. L'ouverture des lèvres pour dire « je te demande pardon » ou « je te pardonne » est le signe de l'ouverture du cœur. Bien sûr, le pardon peut être signifié autrement. Un baiser, par exemple, dans un couple ou auprès d'un enfant. L'amour, quand c'est l'amour qui inspire le pardon, c'est trouver les formes qui permettent de s'exprimer, tout en respectant la pudeur et la sensibilité de l'autre. Un sourire, un geste d'affection, une parole gentille peuvent être des signes très clairs du pardon échangé, même s'il ne remplace pas toujours la parole. Et puis, il y a ceux qui pardonnent, mais qui en profitent tout de suite pour justifier, négocier, pour s'aplatir, pour ne pas avoir de problème. Pardonner, ce n'est pas dire « tu peux recommencer ». D'ailleurs, on ne dit pas « je te pardonne à condition que ». Et puis, il s'agit de choisir le bon moment, les occasions. Je demande souvent, après des confessions aux paroissiens, je leur conseille plutôt de prier leur ange gardien, que notre ange puisse nous donner sur un plateau d'argent l'occasion d'échanger un pardon. Il est bon également de ne pas laisser trop de temps s'écouler entre l'offense et la demande de pardon. Lorsqu'il s'agit de choses graves, le chemin du pardon peut prendre un certain temps. Il faudra sans doute respecter certaines étapes pour pouvoir entrer dans un authentique pardon. Je termine. Après le pardon, oui, nous pouvons prendre un engagement réciproque pour voir comment avancer, s'expliquer, accepter de prendre du temps, de pardonner les petites choses avant les grosses. Est-ce que j'accepte de redonner ma confiance à l'autre pour recevoir quelque chose de l'autre? Est-ce que j'espère quelque chose de cet autre? Vous savez, dans l'Évangile, le Seigneur nous appelle à tendre l'autre joue. Souvent, les gens ne comprennent pas et se disent « mais c'est naïf, on ne va pas se prendre une autre claque ». Mais ce n'est pas le sens de la tradition chrétienne, ni même d'ailleurs hébraïque. La tradition de l'autre joue, c'est de dire à l'autre « pourquoi m'as-tu frappé ? Tu es capable de beaucoup mieux. Tu es capable de me faire du bien. » On pourrait dire avec des guillemets « de me caresser la joue ». C'est ce que fait Jésus d'ailleurs quand il ne répond pas aux attaques de Pilate. Il se tait, il tend comme l'autre joue. Il est miséricordieux, il dit à l'autre « fais le bien, tu en es capable, c'est cela la miséricorde. » Bien sûr, la confiance que l'on fait à l'autre doit être adaptée à la situation. Si par exemple une épouse a besoin de pardonner à un époux alcoolique, il s'agit peut-être de continuer à être vigilant sur la présence de bouteilles dans la maison. Bon, c'est un exemple parmi d'autres. Mais il peut y avoir un beau dialogue après le pardon échangé. Chers amis, pardonner, c'est vivre. Vivre, c'est pardonner. C'est sans doute dans la contemplation du pardon que Dieu nous offre, notamment dans la confession, que nous sommes invités à puiser la force et la grâce de pardonner à notre tour. Parfois, le corps, l'intelligence bloquent, mais si quelque chose dans notre être désire ce pardon, alors le plus important est fait. Et la grâce de Dieu nous sera donnée en abondance. Parfois, nous sommes obligés de pardonner chaque jour. C'est vrai, c'est sans doute l'exemple de ces enfants maltraités à Manille. Mais dans le désir de pardonner, il y a déjà cet acte du pardon. Et même si on doit le redonner souvent dans notre vie, eh bien, il a quelque chose de magnifique aux yeux de Dieu. Voilà ce que disait le pape François en Irak il y a quelques jours. combien de vos frères et sœurs, amis, concitoyens portent les blessures de la guerre et de la violence, des blessures visibles et invisibles. La tentation est de leur répondre, ainsi qu'à d'autres faits douloureux, avec une force toute humaine, avec une sagesse humaine, a-t-il mis en garde. Jésus nous montre au contraire la voie de Dieu, celle que lui a parcourue et sur laquelle il nous appelle à le suivre. Je vous invite, chers amis, en vous remerciant de m'avoir écouté, à être des témoins de ce pardon dans vos familles, dans nos communautés paroissiales, dans notre quartier, notre pays et notre monde. Amen. Je vous souhaite un beau partage et je vous dis à bientôt.